Robin pousse sa troupe de roches jusqu'au cap comme une traînée de points de suspension. Nous devinons la beauté soumise à tant de crimes, hier soumise au pass et à l'interdit, et qui lève ici la beauté. Mandela, Sisulu, Sobukwe, Katrada, Mbeki, un arbre a pris racine. Et sa branche a fait de l'ombre une lumière et de la lumière une première nuit. Indiens, Zoulous, Noirs, Métis, Blancs et Arabes, Juifs et Malgaches, autant que Chicanos et tant d'oiseaux, immigrants et passeurs de frontières. Robben désigne Robben Island, le lieu où fut emprisonné Nelson Mandela pendant la moitié de ses années carcérales. Un îlot rocheux au milieu d'eau dangereuse, non loin du cap de Bonne-Espérance, au nom si ironique. Devant le rocher de Robben Island, Édouard Glissant médite. Le poète de Martinique médite sur l'horreur et l'oppression advenue au sud de l'Afrique. Et qui lève ici. La beauté qui lève, non pas à comprendre comme le commencement d'un processus qui amènerait l'accomplissement, ce serait la beauté se lève, mais comme la condition de cette beauté. La force d'une promesse n'est pas dépendante de ce qui est promis. La promesse est en soi une force, toujours dans l'attente, l'anticipation, la précédence, la suspension. Une incertitude, une condition d'inanticipabilité, qui est aussi la condition de l'interculturel. À l'opposé de l'esthétique classique où la beauté se donne comme une transcendance qu'il faut atteindre ou retrouver, la beauté dans l'interculturel ne surgit que par contraste. Qu'est-ce que je sais d'elle ? Rien ne la définit, mais je sais que je la toucherai, ou qu'elle me touchera, en acceptant la tension qui la porte et qui l'appelle. Au sein du réel, creusant ce réel de sa trace, elle était, dit Glissant, soumise au passe. Désormais, elle passe, m'entraîne dans son mouvement, dans sa trace. La pensée de la trace donne sur ces temps diffractés que les humanités d'aujourd'hui multiplient entre elles par heurts et merveilles. Et si la beauté ne sera visible, sensible, que dans les éclats d'une diffraction entre les cultures, cela revient à dire qu'elle sera en suspens, entre les langues, entre les destins. La trace, en effet, dénie l'en soi. Elle dénie l'en, ce qui est dedans, ce qui constitue un dedans, ne supportant que du support. Son lieu est la surface, et elle pose son disparaître dans l'apparaître. Ennemie de la profondeur, si celle-ci prétend à la vérité, mais amie des profondeurs dont elle accueille la réverbération, si celle-ci rend possible les diffractions et les opacités de l'interculturel, les itinéraires de non-savoir qui cisèlent le savoir affirmatif de ce qu'Édouard Glissant nomme le tout-monde. Puis, elle dénie le soi, se jouant de la pesanteur des empreintes de l'être comme de la rigidité des ambassades du signe. Elle retarde le renvoi, elle diffère, mais si souveraine qu'elle suscite déférence. Souveraine sans être fondatrice, et souveraine en cela. Elle est tension et suspension, elle tremble dans le secret de la rencontre. Paltzelan situe dans ce secret le lieu du poème. Le poème veut aller vers un autre, il a besoin de cet autre. Il en a besoin en face de lui, il la recherche, il se promet à lui. Chaque chose, chaque être humain est, pour le poème qui a ainsi mis le cap sur l'autre, une figure de cet autre. Je cite ici la traduction de Jean Launay pour ce cap qui vient traduire zu halten auf et qui résonne avec notre citation initiale. À l'opposé de tous les discours romantiques sur une esthétique cherchant la solitude pour trouver expression, la parole inquiète de Paltzelan, née de son historicité qui est encore la nôtre, assigne au poème la nécessité de la rencontre, aller vers l'autre. La beauté qui lève. La formule pourrait me servir de sous-titre. À préciser encore une fois, qui lève, pas plus. va-t-elle évoluer et demeurer? La réussite esthétique en matière d'interculturel est soumise à incertitude. Penser l'interculturel est toujours penser l'inconnu, car aller vers l'autre ignore toute cartographie. Il nous faut pourtant des instruments, des outils d'orientation, afin de ne pas perdre justement le cap de l'autre. Et je voudrais aujourd'hui vous en proposer quelques-uns. Mozart ou musique orientale, la 40e symphonie ou Yashadi Halan, chanson du répertoire arabo-andalou. Les deux, ni l'un ni l'autre, et les deux, et ni l'un ni l'autre. On ne sait plus sur quel pied danser. Mais il faut s'en féliciter. Seul le soldat, grâce à son pas cadencé, sait toujours sur quel pied danser. Moins métaphorique, le travail de réflexion doit d'abord passer par une phase de nettoyage terminologique quant au vocabulaire du pluralisme culturel. La confusion synonymique règne et elle sert toutes les manipulations idéologiques. Un exemple, le multiculturalisme. En tant que tel, ce n'est qu'une notion vide, un fétiche idéologique. On peut en réalité distinguer plusieurs compréhensions du pluralisme culturel et par exemple faire la distinction entre multiculturel, interculturel, transculturel, hybridité et métissage. Et il est nécessaire de faire cette distinction pour justement ne pas être victime de manipulations idéologiques. Le multiculturel d'abord est un concept opératoire propre à décrire, à définir une situation sociale réunissant au sein d'une entité urbaine, régionale, nationale ou supranationale plusieurs groupes communautaires. Exemple, la civilisation romaine, l'empire des Habsbourg, l'empire ottoman, les anciens royaumes et empires africains ou nombre d'états occidentaux actuels. L'interculturel, lui, soutient une visée conceptuelle différente. La notion sert à cerner au plan individuel ou collectif les dynamiques de rencontre, d'échange, sinon d'affrontement, de rejet, qui s'établissent lorsque deux ou plusieurs communautés sont en contact. Il ne saurait s'employer, l'interculturel, sans prendre en compte les données socio-économiques et le cadre politique d'accueil, car les groupes en présence n'ont pas une jouissance égale de leurs biens et profits culturels. D'une part, il faudrait qu'ils possèdent une identité culturelle pareillement forte ou maîtrisée, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les migrants qui, volontairement ou non, atténuent leur distinction afin de se fondre dans le tissu social. Et j'emprunterai volontiers à la prise de parole hier soir dans ce lieu même, à la distinction entre découpage et montage. L'interculturel peut être un programme, une politique, ça serait un découpage. Mais dans la réalité des faits, l'interculturel, comme je le disais, est inanticipable. Il doit donc être soumis ensuite à un montage qui ne correspondrait pas forcément au découpage initial. Il y a une nécessité constante de penser l'espace dans lequel se joue l'interculturel. L'interculturel n'est certainement pas une notion absolue, mais une notion relative. un espace donné va susciter un certain fonctionnement interculturel, et en retour, ce fonctionnement interculturel doit être susceptible de modifier l'espace initial. Les impasses dans lesquelles les sociétés occidentales se trouvent actuellement par rapport à l'interculturel, c'est précisément de ne pas accepter cette souplesse qui permettrait à l'interculturel de redéfinir en retour l'espace qu'il accueille. Deux paliers du pluralisme culturel, le multiculturel désigne donc une réalité sociale et l'interculturel un dispositif autorisé et mis en place par celle-ci. Le transculturel, maintenant, est ce qui relève le plus du culturel si on comprend cette notion en termes de pratique et de représentation, c'est-à-dire de production. Au sens strict, il désigne la mise en commun ou l'adoption généralisée de formes culturelles. Par exemple, en architecture, la coupole, qui peut aussi bien être utilisée pour le dessin d'une mosquée que d'une église byzantine. Exemples musicaux, les tambours rituels africains qui passent dans la rumba et autres musiques populaires cubaines, ou les instruments d'Orient et d'Occident de la musique arabo-andalouse. En effet, les transferts entre cultures, quels que soient les rapports de domination, ne s'opèrent pas à sens unique. Il n'y a pas tant perte et substitution qu'échange, où des deux côtés, les tissus culturels se modifient par l'action de formes transculturelles. Des éléments passent d'une culture à une autre lorsqu'ils peuvent exister dans les deux. Si bien que transculturel peut s'entendre en un sens plus large, comme désignant les voies de passage permettant le phénomène. Ou dans une autre perspective, c'est le transculturel qui nous permet de juger s'il y a fonctionnement interculturel efficace. L'interculturel doit produire de l'interculturel doit produire du transculturel. Et ce transculturel peut prendre deux formes. Et les choses se complexifient encore. L'hybridité ou le métissage. L'hybridité résulte de la production d'une troisième entité après la rencontre de deux données culturelles ou plus. De la symbiose, du syncrétisme, jusqu'à la création originale, le degré d'autonomie augmente. Mais cette production ne bouge plus. Hybride, pour prendre des exemples toujours musicaux, le sound de Tijuana à la frontière mexico-américaine, l'arabesque de Turquie, mélange du fond ottoman et des apports du monde arabe, le raï algérien, né de la rencontre de la musique arabe et de la chanson française, puis de l'accueil entre autres du rock, du reggae ou du techno. Ces formations apparaissent le plus souvent dans l'entre-deux des cultures en présence dans les sociétés coloniales et post-coloniales. Arrêtons-nous un instant sur la distinction entre l'arabesque de Turquie et le raï algérien. Précisément, le raï algérien, l'arabesque de Turquie est hybride dans la mesure où c'est désormais une nouvelle forme musicale qui n'évolue pas. Tandis que le raï algérien, je le précisais, a d'abord accueilli la chanson française, puis le rock, puis le reggae, puis le techno. C'est donc une musique métisse. C'est donc un transculturel métisse. Le métissage se définit comme la possibilité du saut. C'est une marelle. On saute et on saute encore une fois, et le produit culturel est en devenir constant. C'est un processus permanent révélant une multi-appartenance. Celle-ci peut être ouverture ou déchirure, gain ou perte, heureuse ou malheureuse. Ceci est métisse, ceci ne l'est pas, sont des énoncés intenables. La particularité du métissage, c'est que les composantes qui produisent cette donnée transculturelle gardent leur intégrité. Dans l'hybridité, elles la perdent. J'aime donner cet exemple gastronomique, la distinction entre la soupe et le potage. Prenons une soupe, un minestrone, par exemple, vous reconnaîtrez les carottes, les tomates, etc., etc., tout en sachant qu'il s'agit non pas d'une soupe de tomates ou d'une soupe de carottes ou d'une soupe de poireaux, etc., mais d'un minestrone. Donc nous sommes vraiment dans le métissage, car je peux faire demain un minestrone en accueillant des petits pois, etc., etc. Tandis que le potage, il est passé à la moulinette. Tous les éléments ont perdu leur intégrité. Il est donc hybride. Si vous voulez un autre exemple, il est peut-être un peu trop tôt dans la journée pour cet exemple, mais je ne peux pas y résister, ce sera la différence entre deux cocktails, entre le mojito et le daiquiri. Le mojito, vous reconnaissez, vous voyez la feuille de menthe, vous voyez le rhum, vous voyez le sucre, etc. Alors que le daiquiri, c'est une espèce de masse blanchâtre dans laquelle on ne reconnaît plus les éléments. Donc, vous l'avez compris, le mojito est métis, tandis que le daiquiri est hybride. Cette possibilité, cette ouverture, c'est ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la compréhension de l'esthétique interculturelle. Deux principes vont encore nous aider à approcher l'esthétique de l'interculturel. La transterritorialité hésitation, mais oui, c'est... Et quand j'interroge mes étudiants, ils n'osent pas reconnaître la petite musique de nuit. Ils s'interdisent de reconnaître la petite musique de nuit parce que ce sont d'autres instruments qui la jouent. Il y a eu passage d'un territoire à un autre. Et un autre exemple encore plus troublant. Eh oui, la marche turque, rebaptisée dans cette œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mozart l'Égyptien, rebaptisée marche égyptienne. Comme le remarque Hugues de Courson, le concepteur, le réalisateur du projet, à quelques lieux près, Mozart aurait pu être turc. Il est né à quelques kilomètres de l'Empire ottoman de l'époque, qui atteignait les portes de l'Autriche. Et effectivement, pour ajouter, si les Ottomans avaient conquis Vienne, Mozart aurait composé pour le sultan. Restons dans le domaine musical. Je rappelle que la notion de métissage me sert ici à désigner un processus interculturel ouvert, toujours en devenir, à l'opposé de l'interculturel hybride. Le métissage porté par l'histoire est créateur d'historicité. Évoquer un métissage musical participe d'un idéal. Or, le métissage, je le disais, ne peut accepter de règles prévisibles. Chaque phénomène de métissage appelle sa propre théorisation. De même que chaque processus interculturel va redéfinir l'espace qui accueille ce processus interculturel. Une multiplicité qui doit nous inviter à l'enthousiasme. L'histoire a fécondé de nombreux phénomènes transculturels. On peut aussi, et c'est de plus en plus un courant dans la production musicale, tenter des métissages de laboratoire. Un groupe s'intitule par exemple Afro-Celt Sound, Afro-Celtique. L'archiviste attentif soutiendra que, à comparer avec les Basques au Brésil, les Bretons furent plutôt clairsemés en Afrique, et donc que la base historique de ce métissage manque. Mais cette crispation d'authenticité n'empêche pas néanmoins la vérité d'un surgissement inattendu. Ça fonctionne. Le métissage musical ne se situe pas à l'amont, à la source. Il n'est pas un moule générique. L'interculturel ne peut en aucun cas être un style. C'est une événementialité. Il repose au principe de l'interculturel. Il en est la promesse. Cette dimension d'instantanéité, présence d'un présent inanticipable, lui accorde le statut d'une épiphanie profane, d'où sa difficulté à être saisie. Sans doute plus que dans les domaines pictural et littéraire, dans le domaine musical, un instant, un saisissement, un ravissement, le duende du flamenco, le hal de la Perse et de l'Inde musulmane, le tahrab arabe, la saudade des terres lusitophones. Toute ma vie, j'ai cherché dans ma musique à ouvrir cette porte. De presque rien, d'un millimètre. Je me rappelle une nuit à New York, il n'y avait pas d'après. Pendant un moment, il n'y a eu que toujours. Fin de citation. L'homme qui parle s'appelle Johnny Carter. Entendez à peine voilé Charlie Parker. Et dans la nuit chaude d'une rue parisienne, il s'adresse aux critiques de jazz venant de publier un livre sur lui. Ce toujours, les jazzmen l'appellent parfois « The Blue Note ». Cortázar, l'auteur de cette nouvelle, l'ont nommé « L'éternité ». Walter Benjamin, lui, la nommait « L'aura », la convergence du proche et du lointain. Ce portrait, un des plus beaux portraits de jazzmen que je connaisse, « L'homme à l'affût », tel est le titre de la nouvelle de Cortázar. Cet affût n'est pas celui du chasseur ou du guerrier, non pas la vertu de l'attention, mais la quête de l'inattention. Lorsque le réel se trouble et dévoile tous ses possibles, et que la seule conscience qui s'impose est de ne pas choisir, alors l'interculturel peut se mettre en place, et le transculturel peut produire du métissage esthétique. La pulsion interculturelle épouse ce point de tangence entre savoir et non-savoir, entre perception et opacité. Un obstacle majeur quant à l'abord d'une musique interculturelle tient à une mauvaise compréhension des dimensions migratoires. Ces dimensions migratoires revêtent une réalité indéniable en ce qui concerne nombre de parcours biographiques de musiciens, les Africains vivant en France, les Pakistanais en Angleterre, etc. Mais la migration géographique ne pèse pas d'une nécessité implacable. Les territoires musicaux existent en soi, raison pour laquelle ils peuvent se déplacer, raison pour laquelle ils suggèrent cette transterritorialité sur laquelle s'appuie l'interculturel, l'esthétique interculturelle. Autre exemple musical, la musique klezmer, née dans les communautés juives d'Europe de l'Ouest au XIXe siècle. C'est un métissage musical qui s'est opéré aussi bien en Europe de l'Est, au contact des cultures tziganes ou ottomanes, qu'ensuite avec les migrations juives du début du XXe siècle, en Amérique du Nord, où le klezmer rencontre le jazz. Donc première rencontre, les musiques juives, les musiques tziganes ou ottomanes. Deuxième rencontre, le jazz. Et troisième rencontre, aujourd'hui, où les musiciens klezmer s'aventurent du côté du free jazz, du côté de l'électro, du côté des musiques latines, etc. L'interculturel en matière de musique est territorialisé, ce qui ne veut pas dire qu'il soit nécessaire de le considérer dans une perspective territorial. L'interculturel n'est pas déterritorialisé. Au contraire, chaque composante exhibe ses spécificités par contraste avec les autres. Quand ces spécificités, quand ces identités esthétiques sont tendues, soulignées au point de l'affrontement, la rencontre est possible. La transterritorialité, c'est le détournement de l'expression « Mets-toi à ma place », utilisé généralement sur un ton irrité. Enfin, « Mets-toi à ma place ». Dans notre cas, l'interpellation est positive. « Mets-toi à ma place ». Oui, je m'y mets, et toi, mets-toi à la mienne. Les territoires ne sont pas niés, ma place, ta place, mais ils sont échangeables. L'esthétique interculturelle demande cette souplesse transterritoriale. Deuxième principe, indécisivité. La terminologie ne le cède pas entièrement à la phénoménologie dans l'abord du second principe, celui d'indécisivité. Si l'interculturel produisant le transculturel métis se produit lorsque l'audition ne peut plus décider sur quelle oreille danser, si elle hésite entre deux perceptes et que l'affect naît de et dans cette oscillation, une rationalité typologique conclura à l'impossibilité de classification. Elle ne ferait que déplacer le problème, car avouer une difficulté de catégoriser ne remet pas en cause le système. L'oscillation interculturelle en appelle à d'autres dispositifs ou arrangements. Arrangement. Ce terme s'emploie en musique avec une valeur parfois minorisante lorsqu'il est utilisé dans le domaine des variétés. Mais arranger n'est pas forcément s'arranger avec. Se compromettre, c'est aussi ranger de nouvelles manières, recomposer en dessinant simultanément un plan de composition et de perception inédit. C'est donc l'arrangement qui va présider à l'espace de l'arrangement. Lorsque Bach transcrit Vivaldi, nulle transparence. Mais la redécouverte de Vivaldi passe par Bach, s'appuyant sur une nouvelle refiguration sensible qui excède la seule donnée socio-culturelle. Schoenberg refuse la rupture qu'on lui attribue. Il se dit disciple de Bach et reprend les agencements traditionnels, par exemple la fugue. L'interculturel n'a pas peur du complexe. Il le reconnaît nécessaire. Raison pour laquelle il résiste à la planification, à la programmation politique. Celle-ci table sur des réalités connues, comme toute planification. Mais l'interculturel, je le répète, produit de l'inconnu, des réalités nouvelles. Lorsque Bach, l'allemand, tend la main à Vivaldi, l'italien, il redessine l'axe nord-sud. Lorsque Schoenberg, le moderne, tend la main à Bach, le baroque, il redessine le parcours de la tonalité à la dodécaphonie. Cet interculturel hésite entre deux arrangements. Il nomadise sur les territoires musicaux, il trame son propre arrangement qui inévitablement sera d'abord perçu comme dérangement. Sa réception opère ce principe d'indécisivité, terme à expliquer dans sa morphologie et sa sémantique. Indécisif, néologisme formé sur la forme négative d'un adjectif attesté, décisif. Mais indécisif n'est ni indécis, ni indécidable. Indécidable qualifie un objet, indécis un objet ou un sujet, une condition. Tandis que indécisif va désigner un effet permanent, ce devenir ouvert de l'interculturel. D'un objet sur un sujet, un élément est décisif par sa conséquence, un élément indécisif vaudra par l'impossibilité d'une conséquence, en l'occurrence classificatoire, telle que la marche turque de Mozart interprétée sur des instruments orientaux. Ce qui motive le rejet des notions d'indéterminé, d'indéterminable. Le concept d'indécisivité ne surgit pas ici en terrain neutre. Parmi ces déclinaisons, l'indécidable de Derrida, l'indétermination de Deleuze. Une attitude d'esquive qui gouverne une analogie avec le code gestuel tout de retenue du tango dansé. Le tango, on le sait, étant un produit interculturel, la rencontre entre la musique folklorique italienne et la rythmique africaine de l'Argentine. Comme un orage menaçant dans le tango dansé, les passes expriment un érotisme contenu ou détourné dont la tension est reconduite jusqu'à l'immobilisation finale qui ne résout rien et reporte à la prochaine danse sa charge électrifiante. il s'agit d'une rencontre absolument extraordinaire qui a produit ce CD qui s'appelle Interzone, entre Serge Tessoguet, ancien guitariste du groupe Noir Désir, donc guitare électrique, et Khaled Al-Jarramani, joueur de oud, de luth irakien. Je parlais donc de ce principe d'indécisivité. Comment décider la nature de cette musique ? Rencontre non seulement entre la musique occidentale, représentée par Serge Tissoguet, et la musique orientale, mais rencontre entre deux instruments a priori inconciliables. La guitare électrique, avec la puissance sonore qu'elle suppose, et le oud, qui est un instrument tout de délicatesse. Rencontre entre les deux expériences, puisque Serge Tissoguet va enlever les frettes de sa guitare pour pouvoir jouer non seulement les demi-tons mais aussi les quarts de tons comme dans la musique orientale, et Al-Jarramani qui va électrifier son oud pour lui donner une puissance qui lui permette d'être sur un pied d'égalité pour notre réception avec la guitare électrique. Il me semble que cet exemple-là est tout à fait pertinent pour nous aider à comprendre que l'interculturel va ignorer les frontières après les avoir reconnues. L'interculturel se méfie du déterminisme, de la stabilité. L'interculturel demande une pensée du mouvement et en mouvement, c'est-à-dire une pensée qui soit à la fois cinématographique et chorégraphique. Nietzsche nous invitait à penser comme on danse. Prenons par exemple ici un rythme à deux temps, l'ambiguïté et l'hétérogène. L'ambivalence est conciliatrice, ceci est son contraire, on s'arrange pour le mieux, à la fois vrai et faux, noir et blanc, bon et mauvais. L'ambivalence arbore les teintes de l'aube ou du crépuscule. Elle est synthétique, elle présuppose une temporalité globalisante qui accorde, qui harmonise des états différents. Alors que l'ambiguïté refuse la conciliation. L'ambiguïté est nihiliste, elle nie ni ceci, ni cela. Ni vrai, ni faux, ni bon, ni mauvais, ni noir, ni blanc, ni jour, ni nuit. Mais se réservant la liberté de devenir ceci ou cela. Noir ou blanc, jour ou nuit, en diachronie, grâce à un principe corollaire qui est celui de l'alternance. Ambivalence, à la fois noir et blanc, ambiguïté, ni noir ni blanc, s'ouvrant à l'alternance, noir puis blanc, puis noir puis blanc, l'échiquier du devenir interculturel qui pose un territoire pour aussitôt en franchir et en défaire les limites. Au jeu des prépositions spatiales, si l'ambivalence se situe au-dessus des qualités, des états, des conditions, l'ambiguïté est devant. Elle rejette la tentation d'une quelconque transcendance. Elle ne s'effraie pas de la contingence, mais elle l'épouse. Ambigu, l'interculturel, qui ne sera jamais lassé d'être à l'affût de nouvelles métamorphoses. Nous pouvons suivre ce parcours de l'ambiguïté dans deux champs réflexifs, l'épistémologie et l'éthique. Pour l'épistémologie, l'ambiguïté va s'opposer à la considération de la science comme unité d'une méthode qui se retrouverait dans l'ensemble des disciplines. Ou encore, dans le vieux mythe du progrès de la science, une théorie vient en remplacer une autre parce qu'elle est meilleure. Or, ce schéma d'une continuité linéaire est battu en brèche, par exemple par Karl Popper, est-ce le critère de falsifiabilité ? Thomas Kuhn et les notions de crise de paradigme ? Paul Feyerabend et la théorie anarchiste de la connaissance ? Abandonner l'idéal de simplicité dans la recherche scientifique appelle nécessairement l'ambiguïté. Mais c'est aussi cette ambiguïté qu'on retrouve dans l'éthique. Si elle partage avec l'épistémologie le principe relativiste, elle ne cède en aucun cas à l'extrémisme du « tout se vaut ». Parmi les grands récits promettant progrès et émancipation, telle que la théorise Lyotard, figure évidemment la morale. Évidemment, puisque les grands récits avaient la fonction de guider vers un meilleur qui se définissait par rapport à un bien. Et pourtant, l'absence de la morale ne signifie pas l'abandon de l'éthique. L'éthique vient spécifier des situations elles-mêmes en perpétuel devenir. L'éthique appelle donc l'ambiguïté, là où la morale demandait l'ambivalence. L'hétérogène, maintenant. Au début, est-elle hétérogène ? Toute genèse est hétérogénèse. On est peut-être quelque part, mais on vient toujours d'ailleurs. Pour la biologie, la naissance est hétérogénèse. Pour le mythe ou la religion, la création est hétérogénèse. Le fœtus doit sa formation à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, de même que selon le texte biblique, l'être humain doit la sienne au souffle divin s'alliant à la matière terrestre. De telles spéculations ne nous éloignent pas de la nature. La nature est hétérogène, à l'évidence dans sa manifestation organique, le vivant. Un organisme est une organisation, encore une fois, un arrangement d'éléments. De surcroît, le parcours du vivant est marqué d'altérité, il provient d'un autre ou de deux, il ne cesse de se transformer, il devient autre à la fin. Penser l'hétérogène en appelle à la notion d'articulation, précieuse pour comprendre l'esthétique de l'interculturel. L'articulation est la connexion qui permet de relier des éléments sans les fixer en un ordre de classification égal à un tableau inerte et unificateur de différences. Elle permet de faire dévier l'organisation du réel selon un modèle mécaniciste vers la souplesse, l'imprévu, l'imprévisible, de reconnaître la complémentarité de ces deux fonctionnements. Le terme d'articulation s'emploie physiologiquement pour décrire la production vocale, mais la linguistique l'utilise pareillement pour cerner les paliers du langage qui créera l'infinitude du sens. L'articulation maintient la discontinuité indispensable à l'hétérogène pour ne pas être intégré dans une totalité, tout en dessinant des voies de passage entre éléments disparates, ce qu'on appelle des articles, terme qui au sens grammatical, textuel ou commercial désigne toujours une singularité. Le lien interculturel est ainsi articulé plus que noué. L'homogène n'est pas premier un état d'intégrité ou de pureté initiale qu'une évolution transformatrice viendrait troubler. L'homogène vient après, alors qu'il rêve d'une sérénité intemporelle. Il est, soi-disant, reconstruction d'une plénitude originelle. Le terme d'ailleurs d'homogène apparaît postérieurement, presque deux siècles après celui d'hétérogène. En fait, il n'y a jamais homogénéité, mais toujours homogénéisation, opération concrète ou réflexive qui élimine tout ce qui s'oppose à l'uniforme, l'identité mêmeté des éléments d'un ensemble ou d'un mélange. Un tout homogène s'avère un syntagme redondant. Une foule, par exemple, forme un tout car elle se veut compacte, homogène, dissolvant les individualités la composant, mais elle ne peut les effacer. L'hétérogénéité qui nous occupe est particulière dans le cas de l'esthétique interculturelle. Elle ne se présente pas comme une extériorité par rapport à une instance définie, hétérogène A, mais comme la qualité intrinsèque, un hétérogène en soi, régulant les relations, les articulations des éléments d'un ensemble. Dans l'interculturel, l'hétérogène nourrit une tension interne. Il intègre la case vide des jeux de substitution, la valeur vide dont Lévi-Strauss avait besoin pour installer sa structure, le signifiant flottant de la pensée symbolique. Dans l'opposition conceptuelle entre l'ambivalence et l'ambiguïté, l'hétérogène se place du côté de l'ambiguïté. Ni bon ni mauvais, ni vrai ni faux, ni blanc ni noir, ni homme ni femme, avec en permanence la potentialité de devenir l'un ou l'autre. Provisoirement, choix jamais définitif. De sorte que l'hétérogène ne se définit pas par la négation à l'opposé ou à l'extérieur de quelque chose. Il cède à l'homogène l'exclusive de l'exclusion, qui est en fait une procédure d'enfermement, alors que l'hétérogène se laisse toutes portes ouvertes. Son temps est celui de l'instant. Sa chronologie est celle d'une succession de kairos, le moment d'intensification du vécu où s'opèrent les transformations, le passage des singularités. Appliquées à l'ethnicité ou à la citoyenneté, ces approches de l'hétérogène et de l'ambigu pourraient sembler inadéquates. À la fois irlandais et américains, italiens et canadiens, pakistanais et anglais, algériens et français, turcs et allemands. Identité multiple, hétérogène, s'enrichissant mutuellement et offrant cet apport à la société d'accueil. Modifiant le plan ou l'espace interculturel que cette société avait mis en place. Dans un premier cas, il peut y avoir dissolution. La part d'Irlandais ou d'Italien pour un sujet américain ou canadien est ornementale, folklorique. Dans un second cas, plus grave, il y a absorption. Anglo-pakistanais, franco-algérien, germano-turc sont des désignations intenables. L'intégration nationale au prix d'une désintégration identitaire. Et plus grave encore, sans qu'il soit ici nécessaire d'élaborer, juifs et allemands, bosniaques et yougoslaves, tutsis et rwandais, etc. Le « à la fois » ne tient pas à l'épreuve de l'histoire. Il demande le « ni-ni » et la possibilité du choix en devenir permanent. Qu'il s'articule dans une perspective sociologique forcément généralisante ou une visée militante inévitablement grossissante, un certain discours sur les sociétés contemporaines et la radicale nouveauté de leur recomposition doit les lire sous le mode de l'ambigu et de l'hétérogène. Ce qui, bien sûr, oblige à la reconsidération des catégories traditionnelles définissant nation et citoyenneté dans les démocraties occidentales de l'Europe à l'Amérique. C'est dans une logique de l'hétérogène ambigu interculturel que la non-appartenance va être un gage de cet interculturel, un facteur de créativité, d'épanouissement. Joyce ou Beckett, ayant quitté Dublin, vivant et écrivant en France, appartiennent-ils à la France ou à l'Irlande ? Pas plus à la France qu'à l'Irlande. Venus ou réfugiés en France ou ailleurs, Gombrowicz en Argentine, Nabokov aux États-Unis, les Roumains, les Espagnols, les Américains du Nord, du Sud, les Allemands, tous les écrivains et artistes qu'il serait vain d'énumérer, ne se figent pas dans une position d'exilé stérile, mais font de cet écart apatride, au sens noble, un espace médian, le vide prémentionné, où se déploie un imaginaire sans frontières, sans limites, pouvant à ce titre accueillir toutes les appartenances. Énigmatique et emblématique, le titre de V.S. Naipaul, l'énigme de l'arrivée, car justement, l'arrivée n'arrive jamais, ne se produit pas, toujours différée par l'écriture ou la création, qui en elle-même voue l'artiste à l'exil. N'eût-il jamais quitté sa ville ou son pays comme Kafka. Des appartenances que l'on peut constater à d'autres niveaux. On a dit de Lévinas qu'il conciliait Athènes et Jérusalem, le rationalisme et la pensée religieuse, mais il ne les soumet pas à un syncrétisme englobant. C'est au contraire dans la tension perpétuellement maintenue entre ces deux pôles culturels qu'il inscrit la sienne. Tracer dans les langues, c'est ramasser l'imprévisible du monde, écrit Édouard Glissant. Je voudrais ici, et m'acheminant vers ma conclusion, vous en proposer quelques tracés. Est-ce que vous pouvez reconnaître le nombre de langues qu'utilise Mozart dans sa correspondance ? Voilà, les cinq langues que vous venez de citer. C'est extrêmement courant, récurrent dans la correspondance de Mozart, ce qui veut dire que ses lecteurs connaissaient également cet interculturel langagier. Autre exemple, on saute les temps, je ne sais pas si vous arrivez ici à lire, un extrait du Finnegan's Wake de James Joyce, Sir Tristram, violé d'amores, forever, the short sea, had pas encore re-arrived from North America, etc., etc. Exemple de T.S. Eliot, soudain au milieu de son poème surgit ces quatre vers en allemand tirés du Tristan et Isolde de Wagner qui se passe Mein Irish Kind en Irlande. Autre exemple, dans les cantos de Pound, où surgit tout d'un coup la graphie même grecque, un jeu de mots sur Hélène de Troie et Éléonore d'Aquitaine, et puis tout d'un coup surgissement de la du latin d'Ovid, et enfin du Tioco de Dante. Et celui-ci que je chéri particulièrement, poème anonyme du XIVe siècle qui parle d'amitié ou d'amour, à celui que plus aime en monde, of all that I found carissima. Salud autre amour with grace and joy and all honor dulcissima. À celle que, alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a même un système de rimes entre l'anglais et le français. Donc c'est français, latin et anglais. À celui que, à celle que j'aime le plus au monde, de toutes celles que j'ai trouvées, ma très chère, je te salue, toi que j'aime tant, avec grâce et joie et honneur, ma très douce, sache bien, donc sachez bien, pleasant and belle, that I'm right in good health, laus Christo, sachez bien, plaisante et belle, que je suis en bonne santé, Dieu soit loué, et mon amour donné vous est, je vous ai donné mon amour, and also thine own night and day, insisto, et je t'appartiens jour et nuit, ma très douce, etc., etc. Et le dernier, la dernière strophe, je vous prie par charité, that word that here written be tenet, et je vous demande par grâce que les mots que je viens d'écrire ici, vous les conserviez, and turn thee hear me toward, ô adieu que vous garde, valete, et tourne-toi vers moi, que Dieu te garde, salut. Ce que nous venons ici de comprendre, c'est ce que Walter Benjamin théorisait à propos des langues, que la traduction, cet extrait de ses réflexions sur la traduction, que la traduction ne vient pas illustrer le passage d'une langue à une autre qui supposerait un ordre de passage, mais au contraire la rencontre de toutes les langues, cette même tension interculturelle qui est au cœur de l'esthétique de cet interculturel. Le pur langage, dit Reine Sprache, qui peut être traduit par la pure langue, va être la résultante de l'accomplissement de toutes les intentions de chaque langue se tendant les unes vers les autres. Telle est la définition que donne Benjamin de la traduction. Et je crois que pour nous, c'est un exemple même de ce que peut être l'esthétique interculturelle. Donc j'aurais aimé vous parler de la différence entre traduction formelle et traduction culturelle pour montrer que l'interculturel a besoin et d'une traduction formelle et d'une traduction générale, mais on pourra reprendre ça plus tard. Je voudrais en conclusion vous donner à voir une des plus belles illustrations de ce processus propre à l'esthétique interculturelle. Typique, c'est produit de la culture sénégalaise, la rencontre de la photographie et de la peinture. C'est donc un sous-verre qui était produit au Sénégal, disons au cours du XXe siècle. Il s'agit d'un interculturel exemplaire, un métissage des cultures entre l'Occident et l'Afrique, mais également d'un métissage des techniques entre la photographie et la peinture, mais également d'un métissage des styles entre le réalisme et le symbolisme. Cette image me semble tout à fait fascinante. Comme le disait Glissant dans la citation que j'utilisais tout à l'heure, La beauté se tient au passage des frontières. La beauté se tient dans la limite et dans le franchissement de cette limite. Et voici la dernière qui me touche particulièrement. Le regard de cette jeune femme me rappelle ce que disait Le Clésio dans son discours du Nobel. Vous savez, quand il parle de la forêt des paradoxes, que cette forêt des paradoxes qu'est l'écriture procure à la fois effroi et jubilation. Je reconnais dans le regard de cette jeune fille l'effroi et la jubilation. Je crois que c'est pour nous le signe de l'esthétique interculturelle. Merci.